Jessica Vial.
Nuit assez calme dans le Lütschental, trois jours après l'effondrement du glacier du Birch qui a enseveli la majorité des habitations du village de Blatten. La rivière Lonza continue de s'écouler sur les éboulis. Le conseiller d'État valaisan Stéphane Ganser l'expliquait ce matin dans le 6h-9h sur RTS Première. Vendredi soir, le conseil d'État valaisan a décidé d'ouvrir partiellement les vannes de purge du barrage de Ferden à proximité de l'éboulement en vue de l'arrivée d'eau supplémentaire. Une opération menée de manière progressive et sans problème particulier selon les autorités. Dans le canton de Genève, le Conseil d'État a nommé hier une administration provisoire à Vernier. La commune vit sans autorité politique car les résultats des dernières élections sont contestés devant la justice. En cause, des soupçons de fraude électorale autour du scrutin du 23 mars dernier qui n'a pas été validé. Un trio composé des conseillers administratifs sortants va gérer la commune temporairement. Donald Trump veut doubler la surtaxe sur l'acier et l'aluminium importés. Elle passerait de 25 à 50%. Le président américain l'a annoncé aujourd'hui alors qu'il visitait une aciérie dans l'État de Pennsylvanie. Objectif affiché, protéger l'industrie aux États-Unis. Les États-Unis, où la Cour suprême vient d'autoriser l'administration Trump à révoquer le statut juridique temporaire de centaines de milliers de migrants, quelques 532 000 personnes venues du Venezuela, du Nicaragua, de Cuba ou d'Haïti. Ce programme avait été mis en place par l'administration de Joe Biden. Israël a sommé hier le Hamas d'accepter la proposition américaine de trêve à Gaza et de libération des otages retenus depuis l'attaque du 7 octobre 2023 ou alors d'être anéanti. Israël qui fait face à une pression internationale croissante. Le président français Emmanuel Macron a notamment appelé hier les pays européens à durcir leur position contre l'État hébreu si celui-ci ne desserre pas son étau sur la bande de Gaza. L'Iran considère l'arme atomique comme inacceptable. Le chef de la diplomatie iranienne l'a déclaré aujourd'hui au moment où son pays est engagé dans de délicats pourparlers sur le nucléaire avec les États-Unis. Point de tension entre les deux pays sur la question de l'enrichissement d'uranium. Les États-Unis demandent que l'Iran y renonce totalement, mais Téhéran refuse catégoriquement. L'Iran met en avant un droit au nucléaire civil, notamment pour l'énergie, mais se défend d'avoir des ambitions militaires. Football avec la finale de la Ligue des Champions ce soir à Munich, à l'affiche Paris Saint-Germain Inter de Milan. Le gardien suisse Yann Sommer sera dans les buts côté italien. Ce match débute à 21h. Il est à suivre en direct sur RTS Première dans une émission spéciale dès 20h30 et en images sur RTS 2. Le temps sera bien ensoleillé aujourd'hui avec par moments des voiles de nuages en altitude et quelques averses ou orages isolés sur le Jura et les Préalpes. 28 à 30 degrés au maximum, du soleil également dimanche en plaine et en Valais, temps un peu plus couvert sur le Jura et le long des Préalpes. Quelques averses et des orages localement forts sont à prévoir en cours d'après-midi, d'abord sur le relief puis également dans les régions de plaine. Température entre 17 et 28 degrés.
L'actualité en continu sur l'application RTS Info.
Depuis 15 ans, le Palp Festival fait vibrer les montagnes et secoue les sommets. Plongeons givrés en lac d'altitude, musique et expo à l'ombre des châteaux, rock'n raclette sur les crêtes ou encore concert à 3000 mètres. Jusqu'au 20 septembre, découvrez le plus insolite des événements valaisans. Plus d'informations sur palpfestival.ch.
Le Grand Soir.
Retrouvez l'événement qui décoiffe dans Le Grand Soir du lundi au jeudi à 19h sur RTS Première et sur l'application Play RTS.
Bonjour madame, un mot sur Biasca, le Tessin, vous connaissez ?
Non, je connais pas.
Vous êtes jamais allé au Tessin ?
Non, jamais. Vous voulez m'inviter ?
Oui.
Ben, avec plaisir alors.
Maintenant ?
Comment ça maintenant ?
On y va maintenant ?
Ben non.
Ben pourquoi pas ?
Mais franchement, c'est pas à côté ?
Ben non, on prend le train.
Vous êtes sérieux, là ?
Mais oui, Zurich-Lucerne, c'est très rapide. Après Lucerne jusqu'à Bellinzone, c'est une heure.
Tout ce programme dans la vie.
Ouais.
Ben voilà.
Le GAV numéro 1 en provenance de 10h et à destination de 11h va partir. En voiture, s'il vous plaît. Gare à vous, une émission de Duja.
Prossima fermata. Biasca, capolinea. Tutti sono pregati di scendere.
Et nous voici sortis du train, ma chère Valérie. Buongiorno.
Salut Duja.
Bonjour à toutes et tous.
Saluti a tutti.
Alors, nous sommes à Biasca.
Oui, nous venons d'arriver avec le petit train qui nous amène de Bellinzona-Biasca et on va faire la connaissance de Filippo Rodoni, qui est municipal de Biasca, en charge des infrastructures, membre du Parti Socialiste. Et c'est lui qui va nous raconter l'histoire assez longue, assez étonnante de cette petite commune de Biasca, avec tous les défis du passé, les défis qui attendent et les développements qui ont été possibles dans cette région grâce à la route d'abord et ensuite au chemin de fer.
Évidemment, traduction Valérie Dantan, qui est aussi notre attachée de production, donc gare à vous. Plaisir de partager le micro avec toi encore une fois.
Plaisir partagé, cher Lija.
Ah, il y a le municipal... arrive à moto, il est écolo.
À mobilette.
Il est socialiste.
Il est pas vert, il est socialiste.
Il a le droit, alors.
On va le chercher.
Bonjour. Biasca, vous savez où c'est, Biasca?
Biasca.
Biasca? Non.
Non.
C'est tout, tété.
Toto, tété, tato, tété, tato, tété, tati, loté, tatou.
Gare à vous est vietato attraversare i binari.
Bonheur, plaisir d'être accueilli par Filippo Rodoni, qui est municipal socialiste ici à Biasca. Bonjour.
Bonjour à vous.
Bonjour.
Bonjour.
On va entrer dans le vif du sujet, si vous le voulez bien, parce que Biasca, c'est un lieu incroyablement important de convergence, de vallée, avec un nœud ferroviaire, on peut aussi le dire, qui aura marqué des siècles d'histoire ici à Biasca. On va démarrer, si vous le voulez bien, monsieur Rodoni, avec l'histoire de la gare et de cette ligne de chemin de fer. Si vous voulez vous rafraîchir la mémoire, pour écouter les émissions de la semaine dernière à Bellinzona, avec toujours ces deux dates qui reviennent, 1874 et 1882.
Sì, il 1874 è stata una data importante per Biasca con l'inaugurazione della stazione ferroviaria e la prima linea della famosa ferrovia di pianura, cosiddetta, era la tratta Biasca-Giubiasco-Locarno.
È un lieu super importante per il sviluppo ferroviario del canton. C'est la première ligne qui a été construite au Tessin, c'est cette ligne Biasca-Giubiasco-Locarno. La gare de Biasca a été inaugurée en 1874 et l'ouverture de cette ligne a permis évidemment à la région de se développer, à la population évidemment de grandir. Et Biasca est passée en 1850 de 2200 habitants à 30 ans plus tard, déjà 3500 habitants. Et le grand saut, ça a été fait avec la construction du tunnel du Saint-Gothard qui a donné un axe très important nord-sud, qui a ouvert énormément la vallée et qui a fait augmenter la population de nouveau énormément. Ce tunnel a apporté beaucoup de dynamisme. Et combien on a d'habitants aujourd'hui à Biasca?
Oggi abbiamo 6200 abitanti.
Aujourd'hui, on a 6200 habitants.
L'evento chiaro più forte che abbiamo avuto nella nostra regione con l'avvento della ferrovia è stato il cambiamento.
On a commencé évidemment dans le premier secteur en 1850, on était une région essentiellement agricole. Ensuite, on est passé dans le secondaire et on est arrivé avec la construction du tunnel du Saint-Gothard et l'arrivée des Suisses alémaniques à développer beaucoup d'activités dans le secteur tertiaire.
Da parte della Svizzera tedesca.
Petite précision géographique, quelles sont les vallées qui entourent Biasca? Je crois qu'il y a le Val di Blegno, la Levantine et puis...
C'è la riviera, la valle che congiunge praticamente Bellinzona con Biasca. Questo ha avuto un effetto molto importante e attualmente gioca ancora un ruolo molto importante.
Allora, il y a ces trois vallées, mais il y a celle qui est la plus importante, qui est la riviera, qui permet de relier en fait Biasca à Bellinzona.
Entre les gens de la Levantine, là, on va plutôt parler de caractère, de mentalité. On est au Tessin, on sait qu'il y a plusieurs régions, plusieurs villes, plusieurs pôles, plusieurs carrefours, comme le disait Valérie tout à l'heure. Est-ce qu'il y a vraiment des différences de mentalité entre les gens de Biasca, de Ambripiota ou du Val di Blegno? Yuri, qui nous a retrouvés, qui est notre fil rouge, qui est directeur de l'Office du tourisme de Bellinzona, avec un point aussi à Biasca.
Oui, absolument, oui, c'est très important Biasca pour justement... la division, si on veut, entre les trois vallées, non, la riviera, justement, comme on a dit, la Leventina, la vallée di Blegno. Et au niveau touristique, c'est clair, on doit essayer de promouvoir ce que c'est la culture d'un côté, c'est clair. On a par exemple, on a vu la semaine passée, la forteresse à Bellinzone, non? Et là, on peut ajouter ce que c'est la nature. Donc, les axes de promotion de nos stratégies, c'est justement la culture d'un côté, la nature de l'autre côté. Et si on a tous ces moyens, ces possibilités de promouvoir les deux choses, car on a, il faut simplement regarder à gauche, à droite, on a plein de nature, on a la culture, pas seulement au château, comme on a dit, à la forteresse, comme on a dit la semaine passée, mais même si on va vers la Leventina, il y a le museo du Giornico de Leventina qui est juste ici à côté, c'est en Leventina, mais la bassa Leventina, donc c'est à côté de la rivière. On a deux musées au Gotthard, même le musée national et le museo del Sasso, et de l'autre côté, à la Valle di Blegno, donc ici on partage, on va vers la droite, vers le Lucomagne, on a le museo di Lottigna, par exemple. Donc on a vraiment ce mix de culture-nature que c'est notre grande force.
Mais quid des mentalités ici à Biasca? Est-ce qu'on est proche des Léventins ou des gens du Val di Blegno? Qu'est-ce qu'on dit sur les gens des vallées? On sait qu'il y a peut-être parfois des guéguerres de clochers, comme on dit en français. Est-ce qu'on se moque de certaines personnes? Est-ce qu'il y a des traits de caractère, vu qu'on était dans la caricature la semaine dernière avec Flavio, qui aime bien les différences du terroir, avec des dialectes différents aussi?
Ouais. Je te réponds en parlant de mes origines. Moi, je suis du Mendrisiotto, donc encore plus bas. Hein,
Valle di Mugio.
Sotto Ceneri, Valle di Mugio, la Valle di Mugio, c'est juste où il y a le Monte Generoso, tout ça. Mais j'ai vécu des années dans la Luganese, car je travaillais là. Mais j'habitais quand même à Bellinzone, je me déplaçais. Il y a quand même une grande unité entre Bellinzone, Biasca et les Vallées. Mais on est un peu détaché quand on parle de Sottoceneri. Là, c'est différent. Donc, la grande frontière pour nous, au Tessin, c'est le Monte Ceneri. Non? Mais à nord du Monte Ceneri, on est tous coincés, on est tous ensemble. Pas seulement à cause de l'Ambrì, c'est clair. Tout le monde ici, ou presque tout le monde, tient à l'Ambrì Piotta. Oui, oui, c'est juste. Mais pas seulement pour ça, mais à niveau de caractère, à niveau de collaboration et de synergie, on est tous unis et tous ensemble, voilà.
Ce qui est amusant aussi, si on parle de la fierté régionale, le club de hockey d'Ambrì Piotta, c'est qu'il y a aussi des clubs de supporters qui viennent de l'autre côté du Gotthard.
Voilà. Mais du canton Uri, il y en a plein, mais on parlait, je pense, avec quelqu'un qui disait même, il y a les clubs au Jura, hein, oui. Qui dit Force Ambrì, donc qui sont les clubs d'Ambrì Piotta au Jura, donc qu'il est quand même assez loin. Moi, je pense que c'est quand même un symbole de ce que c'est le Tessin, ce que c'est notre vallée et du Sopraceneri surtout.
Alors, petit clin d'œil à Nounours et à Boris, qui sont des supporters jurassiens du Ambrì Piotta et qui viennent régulièrement en bus voir des matchs d'Ambrì Piotta. On ne sait pas comment ils rentrent, hein, parfois, parce que les fins de match sont parfois très sportives.
La ville est cruelle. Où qu'on aille, les vitrines me reflètent, mes entailles, la fugue éternelle. J'y revois, mais les bêtises font les meilleures histoires. Et toi, tu me fais avoir envie de danger. Alors prends l'argent, vas-y, et enfuis-toi, et enfuis-toi. Je démarrais rapide. Kiss me goodbye, kiss me goodbye. À la folie, à l'interdit. Oh, alors un baiser, kiss goodbye. À la folie, au cœur qui crie. Le moteur débridé, pis sauvage, Bonnie et Clyde. Mes adieux, pour qu'on puisse ne rien dire dans mes yeux. Moi j'ai menti, j'ai triché pour sentir. Ne serait-ce qu'une poignée, une poignée de désir et danger. Et alors prends l'argent, vas-y, et enfuis-toi, et enfuis-toi. Je démarrais rapide. Kiss me goodbye, kiss me goodbye. À la folie, à l'interdit. On voit là un baiser, kiss goodbye. À la folie, au cœur.
Julie Melletta sur RTS Première, Sauvage nous interprétait-elle, Sauvage comme une virée dans la nature des environs de Biasca. Bonjour monsieur, pour RTS Première, connaissez-vous la commune de Biasca?
Non, je ne connais pas. Non.
Où est-ce?
Non, non, laissez-moi, s'il vous plaît.
Vous voulez pas venir avec nous?
Non.
Gare à vous.
À Biasca, avec le municipal de Biasca, membre du PS, Filippo Rodoni. On revient sur l'histoire de cette gare, on peut l'admirer, c'est une architecture particulière.
L'architettura della stazione di Biasca è chiaramente simile a quella di Bellinzona, gli anni di costruzione sono quelli e si va addirittura fino a Locarno. La prima tratta ha influenzato molto, già a quel tempo si...
La gare de Biasca è très similaire, elle est construite alla même époque, dans le même style che la gare de Bellinzona. Et cette première voie ferroviaire qui est ouverte vers Locarno donne cette unité d'esthétique, d'architecture entre ces trois gares. C'est une esthétique suisse-alémanique, hein. C'est les Suisses-alémaniques qui sont venus, qui ont développé cette entreprise ferroviaire. À l'époque, à côté de la gare, il n'y avait pas cette grande route qui passe aujourd'hui juste devant. Il y avait un petit sentier et la route partait beaucoup plus bas depuis Ponte Vecchio, un peu plus bas, voilà.
Alors peut-être que cette gare est d'inspiration suisse-alémanique, mais maintenant quand on va en Suisse-alémanique, on a, comme parfois en Suisse romande, des gares bétonnées, des cubes de béton. Vous, vous avez gardé une architecture qui finalement devient typique de chez vous.
Sì, questo è tipico del ticinese, mantenere la propria struttura, mantenere la propria origine.
C'est vrai qu'au Tessin, on aime ces vieilles bâtisses, on aime l'histoire, donc on les garde, on les restructure, on les conserve, on s'en occupe bien ici. Effectivement, c'est le bâtiment originel de la gare qui a été toujours renouvelé, qu'on peut admirer aujourd'hui. Les bâtiments qui sont derrière, les infrastructures techniques qui sont derrière aussi, elles ont été maintenues de l'époque. Et ça, c'est un petit peu notre fierté, hein, au Tessin, c'est qu'on n'a pas détruit ces gares pour construire des cubes de béton, des bâtiments beaucoup plus modernes, parfois peut-être plus fonctionnels, mais beaucoup moins beaux. Et il y a une maison dans le centre de Biasca où se passe en fait toute la vie culturelle et où dès le 17 mai, il y aura plusieurs activités artistiques.
La fameuse Casa Cavalier Pelande.
Allora, la Casa Cavalier Perlanda è stata ristrutturata più volte, l'ultimo intervento è appena concluso, abbiamo creato nuovi spazi, abbiamo creato nuove disposizioni, abbiamo dato una, diciamo, performance più alta per quello che sarà le mostre, quindi potremo installare delle mostre molto più dedicate ma molto più specifiche.
Dans cette maison que on a conservé, dont on a conservé surtout l'aspect extérieur, dedans par contre on a fait beaucoup de restructuration, on vient de finir la dernière restructuration qui va permettre de recevoir beaucoup de grandes expos, on a des installations modernes qui permettent de faire de développer des activités, des événements culturels modernes d'aujourd'hui. On a construit aussi un nouvel auditorium qui va accueillir des concerts, des conférences, toutes sortes d'activités. Et l'ex-arsenal de Biasca va être structuré et va permettre d'accueillir de nouveau des infrastructures culturelles qui, de différentes natures, expos, musique, etc. Et cette autre maison, mais là peut-être Yuri peut nous donner encore 2-3 informations là-dessus, va accueillir les écoles primaires, mais aussi une maison pour les retraités.
Yuri.
C'est quand même intéressant justement que la ville ou la commune de Biasca, hein, elle nous aide indirectement sur la stratégie. Comme on a dit avant, la culture et la nature, la nature on l'a, maintenant il faut travailler sur la culture et eux ils le font. Alors avec l'arsenal, on va pousser sur la culture, soit comme dépôt, soit comme autre chose, mais quand même, ça va...
En même temps, c'est bien que des objets militaires deviennent culturels.
Voilà, c'est vrai. En plus, dans la Riviera, la région ici s'appelle Riviera, Biasca et Riviera, il y a plein de choses liées à la culture militaire, si on veut dire.
Avec la culture militaire, c'est un petit peu un antagonisme.
Ouais, C'est vrai, mais quand même, c'est ça. C'est une culture militaire, quand même.
Bien sûr, avec l'école, avec la présence des frontières.
La ligne à l'aune, plutôt que d'autres choses qu'on a, la forte mondacha qu'on a ici, juste à côté, c'est quand même des signes importants de ce que c'était le passé militaire, que si on veut le transformer en produit touristique, on peut aussi. Ça, on a des projets en ce sens-là. Mais en retournant à la culture, c'est quand même important que Biasca se déroule et se déplace sur ce que c'est la culture, car ils ont sûrement quelque chose à offrir, donc c'est très important.
Gare à vous sur RTS Première jusqu'à 11h. Nous sommes à Biasca, au Tessin. Bonjour monsieur, RTS Première. Reconnaissez-vous Biasca?
Ouais, j'ai des amis qui habitent là.
Ah ouais? Qu'est-ce qu'ils vous disent?
Rien de spécial.
Ah ouais? Un peu comme ici alors, rien de spécial. Au revoir.
Au revoir.
Tchou-tchou madame, tchou-tchou mademoiselle, tchou-tchou monsieur.
Nous sommes avec Philippe Jodogne, conseiller municipal socialiste. On a envie de dire aux romandes, aux romans qui nous écoutent, voire même au-delà, venez à Biasca. Par contre, le train ne s'arrête pas à Biasca. Si on part de Zurich, il s'arrête à Bellinzon. Il ne s'arrête plus chez vous à Biasca. Il faut reprendre le Sud-Ostbahn.
Non è proprio esatto. Cioè, questa è un po' la filosofia del tunnel del Gottardo, il nuovo tunnel. Ma c'è ancora la linea anziana, la vecchia linea ferroviaria, che offre ottimo trasporto. Un train qui a une fréquence.
C'est pas tout à fait exact. On peut, ça c'est si on prend la nouvelle ligne avec le nouveau tunnel du Gotthard. Si on emprunte l'ancienne ligne, on peut parfaitement s'arrêter à Biasca avant d'arriver à Bellinzona. Et je recommande à tout le monde de faire ce voyage très panoramique, très beau. De Hardgoldau, on prend l'ancienne ligne, on arrive en 45 minutes à Biasca, dans des paysages assez extraordinaires. Cette gare nous permet d'aller et d'admirer aussi les paysages de la vallée du Blegno, de la Levantina. Je recommande aux auditeurs de faire ce voyage, de prendre le temps et d'avoir la chance d'admirer ces beaux paysages.
Le petit complément de Yuri.
C'est le train qu'on a vu maintenant passer, hein, que chaque heure il passe par là. C'est la ligne qu'on a dit, la vieille ligne de
Montpellier. C'est pas le direct, parce qu'on aurait pu imaginer en tant que municipal, comme Philippe, dire voilà, on aimerait aussi un arrêt à Biasca, avant Bellinzona depuis Zurich. Ça aurait pu.
Non, alors, la ligne, là, quand même, de Sud-Ostbahn, qui a repris la ligne de montagne, elle s'arrête à Biasca.
Oui, mais c'est plus long.
C'est plus long, mais c'est plus confortable, car c'est un train panoramique. Sud-Ostbahn, elle a investi sur ça. Si vous prenez le train de SOB, de la
il défend bien ses dossiers.
Il y a des super fenêtres très grandes, hein, des fenêtres très grandes, et c'est vraiment panoramique. C'est ça l'objectif de Sud-Ostbahn. Et ça, c'est intéressant, car c'est vraiment vu, pas seulement pour le transport public, que c'est surtout important, au clair, mais pour le touriste aussi. Donc, c'est pour ça que nous, on travaille beaucoup avec SOB, Sud-Ostbahn, à cause de ça. Voilà.
Archives RTS.
3 juillet 1963.
Les Tessinois ne demandent qu'à vivre en paix dans leurs vignes et à l'ombre de leurs châtaigniers. Seulement, voilà, le destin les a placés sur le versant sud du Gotthard et du Lucmanier, sur les routes qui relient l'Empire à Rome, les Confédérés aux Milanais. Pourquoi en arrive-t-il à préférer les montagnards d'au-delà du Gotthard? Parce qu'ils sont loin, parce qu'ils sont les plus forts. Ne seront-ils pas à un certain temps maîtres de Milan? Jusqu'à la Révolution, à l'instar du pays de Vaud et de l'Argovie, les vallées tessinoises se constituent en bailliages. L'unité ne se fera qu'à l'orée du XIXe siècle, avec l'entrée définitive dans la Confédération. Le Tessin exerce toujours un irrésistible attrait, et un humoriste pourrait dire que la colonisation continue. L'appel du Sud n'est pas un vain mot.
Vous êtes en train d'écouter Gare à vous.
Philippe Jodogne, j'aimerais qu'on parle de l'avenir, du futur. On a beaucoup parlé du passé, évidemment, mais j'imagine qu'il y a des projets encore par rapport à cette gare, par rapport au transport.
Allora, a Biasca ci sono moltissimi progetti, e specialmente quello che è un po' l'intervento che andremo a iniziare al 7 maggio è proprio il nodo intermodale davanti alla stazione di Biasca. Qui verrà fatto.
Heureusement, oui, on a des projets d'avenir, entre autres de développer les transports depuis cette gare de Biasca. Et le 7 mai, on va inaugurer les débuts des travaux qui seront terminés en 2027. Et qui vont augmenter la fréquence des trains de cette compagnie SOB, le nouveau nœud intermodal de transport. qui va permettre, depuis la gare, d'emprunter des bus postaux qui vont nous amener les voyageurs, les touristes, dans la vallée du Legno et dans la vallée du Leventina, au travers de ces bus postaux. Donc Biasca va devenir un nœud ferroviaire, un nœud de transport intermodal, c'est comme ça qu'on appelle ça aujourd'hui, qui va permettre de visiter vraiment facilement toute cette région.
Je pense que c'est assez magnifique de parcourir aussi en carte postale les vallées du Tessin, parce que là on est complètement dans le concept. C'est le Guillaume Tell de Rossini qui fait office de klaxon. L'histoire mouvementée de cette petite commune, Filippo Rodoni, municipal de Biasca. Gare à vous, RTS Première.
Magari per procedere, perché questo è un intervento dal lato turistico, con questo nodo intermodale, poi il municipio di Biasca intende sviluppare tutta una serie d'interventi per garantire.
L'idée de ce grand projet touristique de développement de la région, avec ce nœud intermodal de transport, c'est de relier à la fois le réseau des promenades de montagne, tous ces petits sentiers qui existent déjà mais qui vont aussi se développer, et les balades à l'accès au fleuve Tessin, qui va permettre de découvrir vraiment complètement cette région, développer des sentiers et qui vont permettre aux promeneurs et aux visiteurs de relier à pied toutes ces différentes vallées.
On en reparlera bien évidemment en fin d'émission avec un spécialiste du canyoning, mais c'est une région où on peut se balader et aller se baigner dans des piscines naturelles. Je me souviens qu'un ami à moi me disait ça sert à rien d'aller à Locarno, à Lugano ou même à Chiasso, sauf si on est fan des douanes. Il faut aller au Val di Blegno. Il y a des endroits où il y a des piscines naturelles qui sont creusées dans la roche, juste un mot là-dessus.
Sì, chiaramente poi tutti i percorsi che i fiumi Brenno e Ticino hanno scavato, non dimenticando anche le valli laterali come la Val Malvaglia, la Val Pontirone.
Effectivement, avec ces deux rivières, le Brenno et le Tessin, ces deux rivières qui descendent dans ces vallées à côté de Biasca, on les a toujours laissées libres, on ne les a pas canalisées. Et le fait de leur laisser libre cours a créé des endroits naturels assez extraordinaires. Justement, ces piscines, ces grandes piscines naturelles, ces plages qui aujourd'hui font le bonheur des touristes, des locaux, qui peuvent en été, quand il fait très chaud, profiter de l'eau fraîche de la rivière. Et ça fait des points d'intérêt pour le tourisme très important. Donc c'est une fierté aussi de la région d'avoir ces fleuves qui créent ces endroits naturels très agréables.
Le temps file, le temps passe. Dans Gare à vous, à Biasca, monsieur le conseiller municipal Rodoni, j'aimerais vous poser une question peut-être plus politique, plus historique. On sait que c'est une terre de gauche ici, hein, qui a un passé ouvrier, à une époque en tout cas, peut-être que ça a changé. Il y a tout un historique aussi sur les ouvriers, sur des industries liées peut-être au chemin de fer, peut-être lié à ces Suisses allemands, on nous expliquait ça à Bellinzone, qui sont venus ici, qui étaient déjà des gauchistes, des socialistes, sous toutes leurs formes, hein, syndicalistes, communistes, anarchistes, que sais-je. Vous êtes vous-même socialiste. Pourquoi ici, on est encore à gauche? On est encore à gauche ici?
Ouais, on est quoi à gauche? C'est une demande un peu trop spécifique. Chiaramente, ecco, questo si deve dire. L'afflusso della ferrovia ha portato Biasca a uno spostamento politico e è andata.
Clairement, l'arrivée des trains, de cette industrie, du développement des chemins de fer dans la région a amené beaucoup de travailleurs, beaucoup d'ouvriers, de cheminots. Et ces cheminots ont créé leur propre cercle culturel, endroit de rencontre. Le Politéama est un des endroits où les ouvriers des chemins de fer se retrouvent encore aujourd'hui et où ils font leurs fêtes, leurs événements. C'est des endroits importants. C'est sûr que cet aspect-là de l'histoire de la région a créé un environnement plutôt de gauche grâce à toute cette masse de gens. Il faut dire aussi que ce trajet, cette ligne du Gothard a quand même partagé ce village en deux, mais ça n'a pas créé trop de tensions. Et je dois dire que la situation politique les différents partis s'accordent plutôt sur le fait qu'on a vraiment envie de tirer tous à la même corde, qu'on veut développer cette région, qu'on veut en faire un haut lieu du Tessin pour le tourisme, avec toutes ses beautés, ses spécificités naturelles, mais aussi culturelles.
On aimerait bien entendre ça dans d'autres régions. Des gens qui travaillent ensemble pour le bien-être et l'intérêt général. Ce serait quand même ça le but de la politique. Mais cela n'engage que moi, bien évidemment, en tant que réflexion. Nous parvenons au terme de cette séquence avec vous, Filippo Giordoni. Je vous remercie infiniment.
Grazie mille e grazie per aver visitato Biasca.
Soprattutto
di propagare questa regione ticinese che è importante e vogliamo far scoprire a tutti.
Merci beaucoup d'être venu nous voir et de parler de notre région à vos auditeurs. On se réjouit de les rencontrer, de les accueillir et de leur faire découvrir toutes ces beautés.
Je suis persuadé qu'elles seront très nombreuses et nombreux à venir suite à cette émission. Le programme continue, mon cher Yuri, avec le Club San Gotardo Swiss Rail Park.
Oui. D'abord, peut-être en résumant deux choses pour la Biasca et la rivière en général, vous avez dit deux mots intéressants, importants, la cascade et les puits, les pozzi, que c'est justement des piscines naturelles, et là c'est vraiment une attraction importante de la région. De toute façon, on va passer à Swiss Rail Park, car les chemins de fer sont très importants, mais là on va voir quelque chose d'ancien qui se combine bien avec les choses modernes, mais on va en parler plus tard.
Gare à vous sur la première jusqu'à 11h.
L'invité surprise de ce gars à vous à Biasca, Leo Leoni, guitariste de Gotthard. On vient d'écouter Thunder and Lightning, tiré de leur nouvel album Stereo Crush, avec au chant Nick Meder d'Yverdon. Yverdon, Biasca, uno a uno. Bonjour madame, gare à vous, c'est où Biasca?
Au Tessin, je pense.
Ouais, mais dans quelle partie du Tessin?
Ah oh ben alors, je ne sais plus maintenant, hein, parce que moi, puis la géographie...
Au nord, au sud?
Je ne sais pas.
On va dire au centre.
On va dire au centre, oui.
Entre gauche, centre droit. Gare à vous à Biasca, et nous avons une petite visite surprise, puisqu'on évoquait le Gotthard, et là, nous sommes avec Leo Leoni du groupe Gotthard. C'est une émission totalement conceptuelle. Buongiorno.
Buongiorno a voi.
Comment ça va?
Bene, voi?
Oui, très très bien.
Non capisco perché devo parlare italiano o francese, però dimmi tu cosa devo fare.
Heureusement, il y a Valérie Dantan à la traduction. Choisir Gotthard comme nom de groupe au Tessin, c'est forcément un clin d'œil à la montagne, mais aussi au tunnel. Est-ce que tu as un rapport particulier avec le train?
Fondamentalmente penso che la galleria è diventata famosa dopo di noi. Però era una cosa molto importante avere un nome che rappresentava questa musica che facevamo, quindi il mondo rock, no? Essendo ticinesi, comunque abbiamo sempre dovuto.
Ben, en fait, ce que je peux dire, c'est que c'est plutôt le tunnel qui est devenu fameux après le succès de notre groupe. C'est dans ce sens-là, en fait, que les choses vont dans l'histoire. Et c'est vrai que on a, vivant Tessin, étant Tessinois, on a toujours eu envie d'aller de l'autre côté pour aller, en Suisse alémanique, aussi en Suisse romande, être connu, connaître d'autres choses, aller connaître notre Suisse. Donc, cette tendance à devoir traverser ce gros rocher qui nous séparait de la Suisse. Ça nous a inspiré. On a de la publicité gratuite sur toutes les routes, sur l'école, etc. Donc ça nous a plu.
Léo Leoni, quel est ton rapport au train?
Vado in giro col treno, comunque mi sposto col treno, però lo trovo molto comodo, molto.
Bon, c'est magnifique, j'adore le train, je l'utilise de plus en plus. Au fond, c'est commode, c'est pas cher, et surtout, on n'est pas dans les bouchons. Et c'est beaucoup plus relaxant que la voiture, donc je l'utilise de plus en plus. Et voilà, tu t'installes dans le train, tu regardes les paysages, tu manges un petit morceau, et puis tu arrives deux heures plus tard à Zurich ou à la destination dans laquelle tu voulais aller. J'adore.
On a essayé de rechercher tes origines, c'est marqué partout, voilà, il est né au Tessin, il est du Tessin, quelqu'un s'est dit, ouais, il est peut-être de Biasca.
Non, je ne suis pas de Biasca, non sono di Biasca, sono nato in Ticino, sono nato a Lamone e vivo da tanti anni in Capriasca, che è una regione del Luganese.
Je ne suis pas né à Biasca, mais je suis né à Lamone, où j'ai grandi à Lamone, et après encore à Capriasca, qui est dans la région de Lugano.
Exactement.
Tout ça parce que quelqu'un nous a dit, oui, il y a peut-être un lien entre le heavy metal de Gotthard et puis les aciéries qu'on peut trouver dans la région de Biasca, à l'instar de Birmingham et de Black Sabbath, où il y avait des aciéries, où on raconte que Tony Iommi écoutait la nuit, quand il était enfant, le bruit des aciéries qui aurait donné cette idée du heavy metal.
No, donc ça, allora, normalmente questo non è proprio andata così, però una cosa che poi.
Non, c'est pas tout à fait ça le lien, mais enfin, c'est une jolie histoire, pourquoi pas, c'est un mythe, mais ça n'a pas de lien avec l'histoire de notre groupe. Par contre, effectivement, ma sœur qui était notre manager à l'époque a fondé un café, en fait, qui s'appelle Rock Café à Biasca.
Le temps file, on va bientôt aller faire du canyoning, on va parler aussi du Swiss Railway Park avec le club San Gotardo. J'aimerais poser une dernière question à Léonie, guitariste du groupe Gotthard, dont vous pouvez écouter le nouvel album Stereo Crush un peu partout, même aller l'acheter, même acheter des CD. On peut encore acheter des CD. On aime ça aussi, la musique physique. Léo, je voulais savoir avec quelle personnalité, vivante ou décédée, tu aimerais faire un long voyage en train?
De toute façon, il y a beaucoup de gens que j'aimerais rencontrer, pouvoir connaître. Je pense, si on parle de la musique seulement, j'aimerais bien connaître Sir Paul McCartney, que je trouve que c'est un super musicien. Il est encore toujours un super musicien. Donc, respect. Sans Beatles, il n'y avait pas de Léo Leoni qui jouait la guitare. Donc.
Merci Léo.
Merci à vous.
Gare à vous. I'm on a railway. Duel.
Oh yeah.
Bonjour, quel est votre guitariste favori?
Paco de Lucia.
Ah oui, non, c'est pas du hard rock. Paco de Lucia. Biasca, si.
Archives RTS.
29 juillet 1981.
Avec la prime vert, on aborde une nouvelle série d'aérophones, les instruments à hanches doubles, dans lesquels on souffle comme dans un hautbois. Nous sommes au Tessin, dans la région de Biasca.
Ecco, questa è una primula.
Voilà, c'est une prime vert, c'est simplement une fleur. Quand on était petit, on jouait avec ces primes verts. On faisait un concert avec les garçons qui, eux, utilisaient des sifflets faits avec du bois de sureau ou de saule. On jouait souvent de la prime vert parce que dans le temps, on n'avait pas beaucoup de jouets. Il fallait se débrouiller. À l'époque, on s'amusait avec les primes vert, avec des bâtons, avec une roue de bicyclette.
a fare questa musica semplice e gentile. Era una roba molto gentile, vi dei fiei che faceva. Adesso,
maintenant, les enfants ne jouent plus de la primevère, ils ont des jouets en abondance.
Il n'y a plus voi de giocare, perché i giocattoli in abbondanza.
Bonjour mesdames, l'émission Gare à vous, RTS Première. Est-ce que vous aimez les vieilles locomotives?
Oui monsieur, mais on va en train. On va en bus.
En bus?
Oui.
Ah ouais, il est tout neuf. Nous on aime mieux les vieilles locos que les nouveaux bus. Si tu prends le bus, c'est que t'es plein de puces. Je prends un bain, tu es dans le train. Bonjour Francesco Cataneo.
Bonjour, bonjour.
Qui êtes-vous? Que faites-vous ici?
Allora, io sono il responsabile di quello che è il settore ferroviario dello Swiss Rail Park. Mi occupo un po' di coordinare la manutenzione dei veicoli ferroviari storici e dell'organizzazione dei movimenti ferroviari qua nella struttura.
Alors, je suis le responsable du secteur ferroviaire du Swiss Rail Park. Je m'occupe de la maintenance du matériel roulant de tous ces trains historiques. Et je m'occupe aussi de ces voyages qui sont organisés dans ces anciens trains, avec ces locomotives. On est d'ailleurs dans un très joli wagon, tout boisé, avec des lampes à l'ancienne. On a l'impression qu'on est dans l'Orient Express.
Le Swiss Rail Park de Biasca, c'est quoi?
Alors, le Swiss Rail Park nasce dall'associazione del Club del San Gottardo. Prima di tutto avevamo la sede a Mendrisio, è stata fondata negli anni 80.
Alors, ce club de l'association du Saint Gotthard est né, avait son siège à la base à Mendrisio et faisait rouler du matériel historique sur la ligne Mendrisio-Stabio, principalement Mendrisio-Varese. Et en 2015, ce club en fait s'est déplacé de Mendrisio à Biasca. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a investi ces infrastructures anciennes, très belles, très bien maintenues d'ailleurs, avec tout ce matériel roulant des CFF historiques.
Qu'est-ce qu'on peut y voir?
Allora, qui nella nostra struttura,
c'est concentré au fond sur la mobilité et le transport alpin entre les régions. Et on a une partie de voitures d'époque, au fond, qu'on a un hangar dans lequel on les restaure, on les remet en état. Il y a des motos, il y a des voitures. C'est ce qui permettait à l'époque de faire ces cols magnifiques. Mais on est basé surtout sur l'activité autour du matériel roulant, des CFF, ces locomotives, ces wagons historiques de l'époque qui ont fait les premiers trajets de ce tunnel du Gotthard. On a une troisième activité qui est celle des voyages dans ces trains historiques et ça il va peut-être nous expliquer de où à où on va en fait dans ces trains.
Et d'abord quand même une petite parenthèse par rapport au moyen de transport alpin, j'ai vu une Formule 1 Sauber Petronas, je ne crois pas que ce soit un moyen de transport alpin.
Non, la Formula 1 c'è stata prestata dal Museo dei Trasporti un po' per rappresentare anche un po' tutto quello che è il mondo dell'automobilismo a 360 gradi.
Alors, sì, effectivement, bon, c'est pas avec ça forcément qu'on faisait l'école à l'époque, mais ça nous a été prêté. Et aujourd'hui, comme on est une sorte de petit musée des transports alpins, on l'a en fait en représentation.
On va revenir peut-être sur les modèles de locomotives et les wagons qu'on peut voir ici dans quelques minutes, mais d'abord, comme le disait Valérie, explication quant à ces voyages historiques, ces voyages dans le temps.
Allora, questi viaggi storici allo stato attuale non siamo ancora al punto di poterli effettuare.
Alors, ces voyages historiques sont pas encore tout à fait opérationnels. On est en train de les mettre en place et on va faire ces voyages dans ce wagon, entre autres, avec des locomotives d'époque aussi. Ce matériel roulant, ces wagons, ces locomotives sont de l'époque du début du XXe siècle. Et l'idée, c'est de faire des voyages entre Biasca et le nord, au travers du tunnel du Gotthard, ou vers le sud. On ne sait pas encore exactement où, mais l'idée c'est de faire vraiment rouler ce matériel roulant dans les deux sens.
Le Club San Gottardo, représenté par Francesco Cataneo, le Swiss Rail Park Saint-Gothard à Biasca, RTS Première. Gare à vous.
Alors, la nostra collezione è abbastanza ricca.
On a plusieurs pièces de collection. C'est surtout des locomotives à vapeur qui sont exposées ici, la fameuse E33, Diggerly, elle s'appelle comme ça. On peut en voir une là sur la place quand on arrive, et il y en a une autre qui est exposée à l'intérieur du hangar dans lequel on développe toutes nos activités. Il y a aussi la fameuse locomotive Crocodile, qui est très belle, très étonnante. Et c'est tout ce matériel en fait qu'on peut découvrir à la fois à l'extérieur mais aussi à l'intérieur de ce hangar et qu'on on restaure dans l'idée de pouvoir les utiliser.
On a parlé de ces fameux ferrophiles, ces ferrovipates, ces passionnés de mécanique, d'histoire ferroviaire. Nonobstant, on a l'impression que le train en Suisse, l'histoire du train, ça touche tous les milieux sociaux, toutes les générations, les plus jeunes, il y en a toujours, il y a toujours une espèce de relève aussi. Vous ressentez ça ici, ce côté réunissant, réunion possible avec différents milieux sociaux, différentes générations?
Sì, senz'altro, qui abbiamo la possibilità di riunire più generazioni.
Oui, cette association du Saint-Gothard, du club, réunit différentes générations. Et il y a des gens, des jeunes de 14-15 ans qui font partie de ce club, et des adultes jusqu'à des personnes de 80 ans. Donc c'est vrai qu'en Suisse, le train a un côté très attractif, et je pense que ça plaît à toutes les générations, et on le voit dans ce club.
Si on désire venir visiter les lieux, participer à différents événements, peut-être un voyage historique, comment est-ce qu'on procède?
Le modo migliore è quello di andare sul nostro sito, Swiss Rail Club del San Gottardo.ch. E lì avete tutte le informazioni, i moduli di contatto per organizzare delle visite o tutte le informazioni riguardo ai viaggi che faremo nel futuro, gli eventi che ci sono in loco.
La maniera la più aisée de savoir ce qu'on fait, ce qui sera possible aussi dans le futur de faire comme voyage, c'est d'aller sur notre site clubsangotardo.ch, et là vous trouverez toutes les informations sur nos activités.
Quelle est votre période à titre personnel favorite en termes de machines, en termes d'histoire ferroviaire?
Ma senz'altro l'epoca del vapore, che qui va dal 1880 fino agli anni 60 del Novecento.
Sans hésiter, c'est l'époque des locomotives à vapeur. C'est une époque merveilleuse qui va de 1880 à 1960, et c'est mon époque favorite.
Une question piège pour terminer. Quelle est la plus belle gare du canton du Tessin?
Beh, devo dire la stazione di Biasca.
Évidemment, on n'attendait pas autre chose.
Eh ben non, c'est celle de Biasca. Ceux de Bellinzona ont dit la même chose pour celle de Bellinzona, donc tout va bien.
Merci beaucoup, Francesco Cattaneo.
Grazie a voi.
Nous allons nous plonger dans certains méandres d'histoire plutôt relatives au canyoning, au développement de ces activités de loisirs ici avec ces fameuses piscines creusées. Ce sera dans quelques minutes, si vous le voulez bien, à l'écoute de RTS Première, un micro-trottoir, et nous retrouvons
Nicolas Reggiori, qui est ingénieur farfelu, touche à tout, et qui son activité principale, c'est de faire du canyoning, et j'espère bien qu'on va en faire ensemble, mon cher Duja.
Ah bah oui, bah il arrive là, je vois, il saute depuis la cascade.
Ouais, bah ouais. Et ça sera rafraîchissant.
Bonjour monsieur, pour RTS Première, quelle ville connaissez-vous au Tessin?
Lugano.
Nous sommes cette semaine à Biasca.
Ah, vous faites quoi à Biasca? Vous demandez des renseignements?
Ouais, à Biasca, on va dans les rivières.
Ah, c'est très joli.
Il y a des rivières, oui.
Très joli.
Et puis on descend des cascades.
Ah,
on fait des
voilà.
Trips saupérieux dans des cavernes.
Alors, je ne connais pas. Moi, je sais que quand j'étais jeune, marié, je faisais beaucoup avant d'aller en Italie, en Calabre, parce que je viens de la Calabre. Ouais. Chaque année, je descends en Calabre. Bientôt, je pars, puis je reviens en fin novembre. Moi, je suis né en Calabre.
C'est là où il y a l'Andouille.
Ah, dans l'Andouille, si, on est presque de par là. Ah, ils fabriquent l'Andouille.
Alors, je m'appelle Duja. Ouais, mais des fois on dit Douya.
Andouya.
L'andouille.
Andouya. Ça c'est une spécialité calabrese. Ouais. Ah oui, on fait le risotto et la polenta. Ouais.
C'est pour ça que vous les appelez les polentones.
Terron.
Les terrons.
Terron, ça veut dire nous on travaille dans la terre.
Ah.
C'est ça le bout. Ouais. Et les autres, ils sont des polentones. Ils font la polenta. Voilà, je
merci
vous laisse.
Monsieur. Merci.
Au revoir. Hein.
Ciao, ciao. Grazie mille. Ah. Gare à vous à Biasca. Nous sommes à présent avec Nicolas Reggiori, ingénieur touche-à-tout et grand sportif. Bonjour, buongiorno.
Bonjour, buongiorno.
Il paraît que vous avez un accent jurassien quand vous parlez français.
Moi, je fais en colocation avec des jurassiens, donc le slang, ça vient de là.
Ouais, mais ça va, on le sent pas trop.
Ouais, bon, je suis rouillé, ça fait 20 ans maintenant.
Dis bonjour.
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 Voilà, ben là, on s'y croit. Nous allons parler avec vous d'activités sportives aussi culturelles. Naturel, découvrir la région. Qu'est-ce qu'on peut faire ici?
Alors ici, on est très riche de rivières, de canyons, comme on appelle, des ravines. Et là, nous, on est un des top emplacements à niveau mondial pour pratiquer ce sport, le canyoning, qui c'est descendre avec des cordes ou à pied ou avec des sauts dans des ravines. Et ici, on est vraiment la mecca de ce sport.
Le canyoning, le fait d'aller comme ça dans des aventures aquatiques, rupestres aussi, parce qu'il y a des rochers, c'est très casse-gueule parfois. Les gens pensent que c'est comme les toboggans à Rappersville. À Alpamar, c'est pas ça du tout.
Oui, c'est ça, monsieur Lapierre. Il y en a aussi pas mal de toboggans. Il y en a des très longs.
Il y a des toboggans naturels?
Oui, toboggans naturels aussi de 20 mètres, ici, pas loin d'ici. Il y a des gros toboggans et puis il faut réfléchir dessous parce que c'est de la pierre très très lisse, c'est du granit et puis c'est de l'eau qui coule depuis des millions d'années pour avoir ça.
On imagine que des gens pratiquent ce sport entre guillemets, hein, c'est pas péjoratif quand je dis entre guillemets, depuis des années, des décennies, et pourtant on l'appelait canyoning, un terme encore anglo-saxon. J'imagine qu'il y avait des paysans dans la région qui descendaient les rivières à une époque qui ne savaient pas que ça s'appelait le canyoning.
Bon, il y avait des explorateurs, on peut dire. Oh, c'était les pêcheurs, les premiers canyoneurs, on peut dire comme ça, qui entraient avec des cordes pour pêcher. Il y a des endroits où nous, on y va, qui, à l'époque, personne n'y allait. Mais il faut dire que le canyoning, c'est anglophone, mais il est né en France et en Espagne. Donc, les premiers, ils étaient des Français qui étaient à la base spéologues.
Je sais que c'est pas facile.
Merci. Et c'est là qu'ils ont commencé les techniques, ils ont débuté de la spéologie. Et puis, on a commencé à aller dans les ravines parce qu'on est curieux de voir qu'est-ce qu'il y a dedans.
Ouais. Qu'est-ce qui vous a justement intéressé dans ce sport, dans cette activité, Nicolas Reggiori?
Bon, franchement, c'est ça, c'est la découverte du paysage. Moi, je connais très très bien avec les scouts les montagnes. Puis on voit les ravines en bas et on se pose la question, qu'est-ce qu'il y a dedans? Et à un certain moment, il y a ce côté découverte. Le marketing dit que c'est un casse-tête, adrénaline, tout ça, c'est aussi ça. Mais il y a aussi un gros côté découverte. Donc, on entre dans des ravines très étroites où ici, il y a le granit, c'est typique du Tessin, des gorges magnifiques où sans son corps, tu ne peux pas entrer.
Est-ce que vous avez découvert des portes spatio-temporelles?
Ouais, peut-être.
Non, mais de se retrouver dans des endroits hors du temps, hors de la dimension, hors du monde.
Oui, on peut dire ça. Il y a certaines situations qu'on en fait un peu au coucher de soleil, le soir, pas la nuit, mais le soir ou le matin tôt, où il y a le soleil qui entre de coupe, on peut dire comme ça. Et puis, il y a des lumières extraordinaires, un peu la poussière d'eau comme ça. Et puis, c'est merveilleux.
On imagine qu'on arrive depuis la Suisse romande, à Biasca, on a envie de découvrir le canyoning, on n'est pas initié, on fait ça pour la première fois. Qu'est-ce que vous conseillez?
Alors, pour la première fois, il faut aller avec des professionnels, des guides. Ici, vu que c'est un hotspot, il y a pas mal d'entreprises qui offrent ça. Donc, toi, tu viens, ils te donnent le matériau et tu peux pratiquer le canyoning. Puis, il y a certaines personnes qui ils sont tombés amoureux de ce sport, comme moi, et puis ils commencent à se former et apprendre à aller de façon indépendante. Donc ici, on a vraiment de côté du canyoning, les choses pour les touristes qui sont une fois dans la vie, ou deux, trois fois dans la vie, et puis il y a des gens qui pratiquent régulièrement.
On ne veut pas être anxiogène, mais ça reste un sport où il faudrait quand même mieux s'entourer de professionnels. On peut pas aller comme ça à l'assaut de certaines rivières, dans des régions inconnues, par n'importe quel temps non plus. Ça peut être dangereux, non? Aussi au niveau des pluies, par moment, les montées des eaux.
Absolument pas. Il faut dire qu'il y a une communauté très très forte. Autant que indépendant, nous on a un réseau, même Internet ça aide beaucoup. Si moi je suis aussi allé à La Réunion, qui c'est un autre top hotspot pour le canyoning. Donc, grâce au Internet, les différentes plateformes sociaux, tu t'adresses à des gens du lieu pour savoir la météo et tout ça, parce que le Tessin a beaucoup de particularités qui, en étranger, ça peut devenir très très dangereux avec des orages de soir.
C'est uniquement une pratique contemplative, on aime la nature, on découvre des lieux, ou alors il y a aussi une compétition parfois. Est-ce qu'il y a des organisations compétitives, compétitrices, parce qu'on sait que l'être humain a besoin de compétition tout le temps. Est-ce qu'on est épargné aussi par cette idée de vouloir faire du canyoning olympique?
Pour le moment, n'existe pas. C'est un peu la chose que moi j'adore, parce que c'est pas compétitif. C'est vrai qu'il y a maintenant, avec les nouvelles générations qui viennent, ils cherchent plus la performance. Donc ils vont en vitesse comme ça. Je peux imaginer que tôt ou tard, ils vont arriver des compétitions, mais c'est pas moi qui les vais organiser souvent.
Vous-même, quels sont les lieux que vous recommandez si on veut commencer, si on veut être initié? Parce qu'après, j'imagine qu'il y a les lieux plus professionnels, les lieux d'initiés, les lieux un peu plus complexes, peut-être plus dangereux, parce qu'on recherche aussi une forme d'adrénaline.
Ouais, au début, pour initier, c'est Bojira. C'est le classique, c'est le gros classique. C'est à quelques kilomètres depuis Biasca, où il y a la plupart des entreprises commerciales qui offrent les tours là. Et là, vraiment, c'est pas si étroit, c'est pas si canyon, on dit ça. Mais il y a des sauts, des toboggans, des piscines naturelles. Puis il y a le soleil, du Tessin, c'est génial, quoi. Le problème tessinois, c'est qu'on parle de canyoning seulement quand il y a des accidents. Ouais. Et donc les gens,
comme le rafting à l'époque.
Ouais, exactement. Et donc les gens, ils ont un peu cette vision, c'est dangereux, c'est l'adrénaline même. Les entreprises pour les touristes, ils jouent un peu le truc adrénaline, parce que la première fois, en dessous de 3 mètres, c'est waouh, dans la pierre, c'est magnifique. Et puis là, ils font un peu changer l'image, mais c'est une chose qu'on ne fait pas un jour à l'autre, c'est des petits bouts chaque jour qu'on fait. Avec le club de canyoning, je suis devenu président d'un club canyoning exactement pour faire ça. Et même cette interview, c'est pour changer l'image du canyoning au visage des gens.
Alors, changeons-la, cette image. Qu'est-ce que vous aimeriez dire aux romans qui nous écoutent, qui écoutent Gare à vous ce matin? Venir faire du canyoning avec vous, c'est possible?
Avec moi, non.
Ah, c'est trop cher.
Non, je ne suis pas certifié de la façon propre pour aller les premières fois. Je suis assuré comme tout il faut, mais ce n'est pas pour de la façon commerciale. Moi, je dis, venez au Tessin, même avec la pluie, parce qu'on peut pratiquer le canyoning même avec la pluie.
Avec un parapluie?
Non, on est néoprène, donc mouillé pour mouiller, s'il pleut, il ne doit pas y avoir des orages, mais on peut pratiquer même avec la pluie. Donc, même s'il pleut, venez au Tessin, vous contactez une entreprise professionnelle pour ça, qui est faite tout comme il faut, vous essayez ça, et puis si vous, waouh, il y a les clubs, il y a Baja Bon Suisse et la Manique Tessin, il y a l'Amical Canyon qui s'est basé au Valais, mais il couvre toute la Romandie. Et là, il y a l'occasion de bâtir un réseau de gens qui t'amènent à apprendre.
Pour terminer cet entretien, quel est le moment le plus exaltant pour vous quand vous pratiquez du canyoning? C'est quoi? C'est de sauter dans une cascade, depuis une cascade, c'est de descendre des rochers, c'est de découvrir quelque chose. Quel est le moment qui vous fait pratiquer cette activité?
Moi, ce que j'aime, c'est comme ici à la cascade, quand je suis attaché au bout de la cascade, tu es lié à deux amarrages avec ta longe, tu te regardes autour, tu vois le panorama. Quand je suis attaché ici à Santa Petronila, j'ai grandi jusqu'à 6 ans ici, je vois tout le village, tu vois tout le panorama, tout le Tessin, des choses qui, depuis le haut, c'est presque comme un avion.
Merci beaucoup.
Je vous en prie.
C'est un plaisir.
Moi aussi.
Merci aussi à Valérie Danton.
Mais merci déjà, c'est un plaisir toujours de me promener avec toi dans cette merveilleuse Suisse.
Valérie Danton qui aura préparé cette émission avec notre ami Yuri.
Clericetti.
Yuri, un dernier mot.
Oui, alors si on parle du canyoning, de ce que disait Nicole avant, je pense que cette découverte, ça fait partie de l'expérience qu'on veut donner à nos touristes. Donc je pense que la rivière Biasca et la rivière, toute la région ici, c'est l'endroit parfait pour ça. C'est reconnu au niveau mondial. Et on veut travailler sur ça, mais là, la région, elle est parfaite pour ça aussi. Donc, il faut vraiment pousser sur ces activités. Voilà.
À part ça, les Tessinois, vous êtes super bons hein, pour vendre votre région.
C'est clair. C'est notre travail, surtout nous, qu'on travaille dans la promotion touristique.
Ben, vous le faites bien.
Il faut le faire, c'est clair, mais il faut l'avoir dans le cœur. Moi, je dis toujours ça. Si tu n'as pas la passion, tu n'as pas les choses dedans...
Si tu n'as pas l'authenticité, tu ne peux pas mentir.
Voilà. Et l'authenticité, c'est la chose qui nous caractérise à Bellinzona, comme on a vu l'aspect passé, et à Biasca aussi.
Et je vois un parapente dans le ciel, je crois que c'est Jean-Marc Richard qui joue du flutio au-dessus de Biasca. D'ici quelques minutes, c'est le Kioska Musique qui vous attend sur RTS Première. Avant, ce seront bien évidemment les informations. Et selon la coutume, à vous les studios.
À vous Lausanne.
Sous vos applaudissements.
da dove è sbucato, che impressione vederlo indossato. Se ti vede tua madre lo sai, questa sera finiamo nei guai. È strano ma sei proprio tu, 14 anni o un po' di più. La tua Barbie è da un po' che non l'hai, e il tuo passo è da donna ormai. Al telefono è sempre un segreto, tante cose in un filo di fiato. E vorrei domandarti chi è, ma lo so che hai vergogna di me. La porta chiusa male tu.
Il vient du sud e par tous les chemins y revient. Adriano Celentano, Garavu, Biasca. Vous écoutez RTS Première.
Il est 11h. Votre kiosque à musique à destination de midi et demi est à quai. Même chaîne.